BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui enrichit vos après-midi, qui tente de vous enrichir. Alors, pas évident, là, avec des marchés qui souffrent énormément. Étienne Brack nous accompagne depuis la Tour Euronext. Rebonjour, Étienne, on en est où de la baisse du CAC 40 à l'instant?
Bonjour à tous. Bah écoutez, c'est de mal en pire puisque vous avez un CAC 40 qui perd désormais 2,8%, qui est sur les plus bas niveaux de la séance et qui passe sous les 7500 points, 7492 points, des volumes d'échanges qui sont présents, plus de 3 milliards d'euros négociés dans l'indice. Un CAC 40 qui efface l'ensemble des gains accumulés depuis le 1er janvier, il est désormais dans le rouge. Et puis surtout, sur la semaine, vous avez un bilan qui est quand même pas très bon, qui est juste très mauvais. Moins 6,5% de baisse depuis lundi.
Wow, c'est la pire semaine donc à ce stade depuis a priori mars 2022, on regardera ça bien sûr en détail, mais mars 2022, on était dans la période de l'invasion de l'Ukraine par la Russie quand même. Voilà où on en est sur le CAC 40, avec effectivement une OAT qui s'écarte de plus en plus de l'Allemagne, en tout cas un écart entre les deux qui s'amplifie, et puis l'euro là, qui recule un petit peu également sous le $0,07, on va en parler avec nos experts, on anticipera bien sûr la suite, tant sur le front macroéconomique que du point de vue de l'investissement. Est-ce que malgré tout, à force de voir les marchés baisser, notamment notre CAC 40, des points d'entrée sont en train de s'ouvrir, d'apparaître et d'émerger sur certaines valeurs? On pose aussi la question cet après-midi. Et puis tout à l'heure, 17h35, notre portefeuille idéal, un portefeuille des idées d'investissement avec des valeurs qui, contre vents et marées, du point de vue de nos experts, peuvent tenir la route pour la suite. Ils nous les présenteront, ce sera donc à partir de 17h35. Et on reviendra aussi sur Apple, qui aujourd'hui encore, Apple est première capitalisation mondiale. Le groupe est redevenu première capi mondiale devant Microsoft cette semaine. On se demandera tout à l'heure, à 17h35, si Apple reconquiert, reconquis ses lettres de noblesse, si Apple redevient une véritable valeur de croissance du point de vue des investisseurs. Oui ou non, ce sera le match à partir de 17h35. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
C'est l'IA, à nouveau l'intelligence artificielle qui propulse Apple depuis le début de la semaine, pendant que les Français s'écharpent, le monde continue d'avancer, et l'IA de creuser un nouveau territoire, de nouveaux territoires au cœur des entreprises. Apple donc star depuis le début de cette semaine des marchés, et aujourd'hui aussi Adobe. Adobe a présenté ses résultats et ses perspectives dopées par l'IA. Le titre Adobe à Wall Street gagne à l'instant 15%. On en parlait tout à l'heure avec John Plassard dans USA Today. L'avenir d'Adobe et l'impact de l'IA, c'est à retrouver en replay. Ça y est, il vient d'être mis en ligne sur notre application BFM Business. Bon, il y a l'IA, il y a les grandes transformations du monde, Étienne, qui continuent d'avancer, de se faire, avec ou sans la France. Bon, on verra quelle place prend la France dans ce monde de demain et dans l'avenir. Mais auparavant, c'est un CAC 40 qui sera bougri, auquel on assiste, qu'on observe depuis le début de la semaine. Il sera bougri encore un peu plus cet après-midi.
Et comme depuis le début de la semaine, les Américains vendent massivement les indices européens. Regardez la bourse de Milan qui perd plus de 3%, le CAC 40 qui perd 2,8%. Alors c'est vraiment deux places qui se distinguent très clairement à la baisse, hein, puisque quand vous regardez le FTSE à Londres, il perd 0,3%, quand le DAX à Francfort perd 1,5%, donc nette sous-performance de Milan et de Paris, dans un contexte où vous avez une incertitude totale, hein, bien sûr, sur la politique en France, dans un contexte également où vous avez beaucoup d'attentisme, hein, rares sont les investisseurs qui se précipitent sur les titres. Ils attendent un petit peu de laisser la poudre retomber. À noter les volumes d'échanges qui sont importants, 3,3 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien, et donc un CAC 40 qui perd plus de 6% sur l'ensemble de la semaine. En effet, c'est la pire semaine à la Bourse de Paris depuis le début 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À noter que vous avez aucune valeur qui est dans le vert dans le CAC 40, c'est quand même assez rare pour être souligné. Les valeurs qui sont en difficulté, comme depuis le début de la semaine, sont les valeurs du secteur bancaire. AXA perd 5,8%, Crédit Agricole moins 5,5%, 12,70%, vous avez BNP également qui perd plus de 4%, quand la plus forte baisse est Thalès avec un titre qui perd 7%. Alors il faut voir également une logique de prise de bénéfices, hein. Les titres qui sont en forte baisse aujourd'hui sont les titres qui sont encore positifs depuis le début de l'année. Bonne nouvelle quand même dans ce contexte, c'est le 10 ans français qui se détend, hein. Preuve qu'il n'y a pas de crise majeure, il n'y a pas de crise très importante, hein. Vous avez un 10 ans français qui perd 8 points de base, ça c'est quand même à relativiser, 3,1%, quasiment au même niveau que vendredi dernier, sachant qu'en début de semaine, il était au-delà des 3,3%. Néanmoins, vous avez un spread, un écart de taux entre le 10 ans français et le 10 ans allemand qui est sur des plus hauts de 2022 et le second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un dernier mot sur l'euro qui est là aussi forcément baisse face à ces incertitudes. L'euro dollar qui est sous les 1,07, 1,0676. Depuis le début de la semaine, cette parité euro dollar perd un peu plus d'1%.
Thierry Gauthier est avec nous depuis les bureaux de GSD. Bon. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver. Et ben voilà, c'est encore les mêmes perdants aujourd'hui sur le marché. On voit notamment le secteur bancaire. Tiens, regardez, Société Générale, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez qu'on est aussi à la télé. Ce titre Société Générale est en train d'apparaître à l'écran, moins 4,8% aujourd'hui. Sur une semaine, il perd 14%. Le titre BNP Paribas, c'est pas tellement mieux. Le titre BNP Paribas perd plus de 11% là. Sur la semaine, Crédit Agricole, aujourd'hui, recule aussi de 5%. Bref, le secteur bancaire qui trinque particulièrement. On a aussi Vinci, encore en baisse de 2%. Les médias aussi sous pression. Est-ce que parmi ces secteurs qui, depuis le début de la semaine, soufflent le plus, vous voyez apparaître des points d'entrée? L'investisseur que vous êtes, vous devez répondre aussi aux clients chaque jour, Thierry, qui cherchent des opportunités d'achat. Est-ce que vous commencez à en voir à mesure que les marchés reculent?
Et on aimerait bien en voir, hein, mais les marchés sont, pour le coup, autant sur les bancaires, les financières, que les concessions d'autoroutes, que les médias ou même l'énergie. On vend la rumeur, c'est compliqué, les élections vont être compliquées. Qui va gouverner? Est-ce que le pays sera gouvernable? On ne sait pas. Le marché a horreur des incertitudes, donc aujourd'hui on vend la rumeur. Et je pense qu'en revanche, il faudra acheter la nouvelle. Et acheter la nouvelle, ça correspondra peut-être à un timing d'après premier tour, si les choses se dessinent un peu, ou d'après second tour au plus tard. Mais c'est vrai que quand on voit toutes ces valeurs, elles sont toutes logées à la même enseigne, hein, sur la séquence de marché là depuis les élections. Les bancaires, c'est moins 15 pour les trois principales que vous avez citées. Vinci FH, c'est moins 15 aussi. TF1 M6, c'est moins 15 et moins 12. Engie, c'est moins 15% aussi. Elles sont toutes à la même enseigne. Donc voilà, on vend la rumeur, il faudra acheter la nouvelle sur lesquelles, j'ai envie de dire, sûrement un petit peu toutes, mais ça dépendra surtout de qui sera à la tête du pays ou pas.
Et au-delà du marché français qui est sous forte pression, et on comprend pourquoi aujourd'hui l'écart de taux avec l'Allemagne qui s'amplifie, bon, est-ce que, parce que les autres marchés européens aussi vivent une mauvaise semaine, est-ce que vous l'attribuez ça au résultat des élections françaises et surtout la dissolution annoncée par le président de la République, ou vous voyez d'autres raisons à la sous-performance européenne depuis le début de la semaine, des raisons complémentaires? L'euro aussi est en repli sur la semaine, Thierry.
Non, c'est clairement la situation franco-française, hein, qui nous pénalise. Quand on regarde sur la séquence, encore une fois, le CAC 40, il est à moins 6. Le DAX allemand et l'Eurostock 50 ne sont qu'à moins 3. Donc, on fait deux fois pire que ces indices-là. On les entraîne aussi un petit peu à la baisse, hein, puisqu'évidemment, le CAC 40 pèse, les valeurs du CAC 40 pèsent dans l'Eurostock 50. Et on voit les marchés US qui, eux, sont plutôt en hausse, avec des taux qui se détendent partout dans le monde, sauf en France. Ce qui explique que le spread France-Allemagne, c'est énormément tendu. Hein. On est passé de 48 points de base à 75 points de base. Donc, c'est vraiment une forte tension. Donc, oui, c'est la situation franco-française qui explique ça et rien d'autre.
Étienne nous disait, les valeurs qui, aujourd'hui, sur la séance du jour, signent les plus forts replis, sont aussi celles qui affichaient quand même de belles performances. Voilà, il y a une forme de prise de bénéfice aussi avec cette marée descendante de marché. Est-ce que ces valeurs-là, Thalès, par exemple, qui perd aujourd'hui 6%, là, vous vous dites peut-être avec un peu plus de conviction, il faut en profiter, ou même discours que vis-à-vis des autres valeurs qui, elles, sont directement exposées à cette dissolution?
Oui, alors sur celles qui sont directement exposées à la dissolution, on a du mal à, pour le moment, en racheter, hein, puisqu'on n'attrape pas un couteau qui tombe, comme le veut l'adage. Donc on est plutôt à regarder du côté des valeurs qui pourraient peut-être profiter de la nouvelle situation, de la situation à venir. Et quand on regarde un petit peu les deux clans pressentis pour gouverner, alors dans le cadre d'une coalition, évidemment, que ce soit à droite ou à gauche. Et s'il y a un point sur lequel ils se rejoignent un peu, c'est le pouvoir d'achat des Français. Donc, à qui est-ce que ça peut profiter? Ça peut profiter à des groupes qui sont positionnés sur la consommation de base, peut-être les dépenses de loisirs. Donc, on a envie de regarder peut-être des dossiers comme Fnac Darty, comme Carrefour, comme Compagnie des Alpes, où vous avez des chutes de 10 ou 12% des cours, alors même que on pense qu'à la limite, c'est des dossiers sur lesquels les nouvelles politiques gouvernementales pourraient être plutôt favorables.
Vous restez avec nous, Thierry. On va continuer de parcourir cette séance. Bien sûr, d'abord, Étienne nous rappelle la Tour Euronext en direct. Étienne, il faut aussi suivre, on en parlait un peu hier, il faut qu'on continue d'en parler cet après-midi, il faut aussi suivre le secteur des spiritueux,
qui surperforme très largement aujourd'hui. Regardez Diageo à Londres qui prend 0,8%. Rémy Cointreau qui est l'une des rares valeurs dans le vert dans le SBF 120. Quand Pernod Ricard a passé une bonne partie dans le vert et désormais la valeur perd 0,3%, soit quand même beaucoup mieux que le CAC 40 qui perd désormais 3%. Ça y est, on continue de s'enfoncer sur le CAC 40. Alors pourquoi le secteur des spiritueux se distingue? Parce qu'il y a une certaine forme de rassurement par rapport au fait que la Chine a annoncé qu'elle allait mener une enquête anticoncurrentielle sur les importations de produits laitiers et sur les les importations de porc. Alors, faut pas oublier que l'Europe, eh bien, c'est un exportateur important hein, de produits laitiers, de lait vers la Chine. Et donc, en fait, le marché est un petit peu rassurant en disant, bon, pour l'instant, ils visent pas le secteur des spiritueux. Et ça, c'était pas gagné puisque, souvenez-vous, en début de semaine, l'Union européenne a annoncé vouloir mettre des droits de douane sur les importations de véhicules chinois. Donc, c'est un petit peu un effet, eh bien, de rassurement hein, qu'il y a sur le marché par rapport à ces valeurs des spiritueux, sachant que ce sont aussi des valeurs défensives, puisque dans une période d'incertitude, dans une période sans grande croissance économique, elles limitent plutôt bien la casse.
Thierry, ce segment des spiritueux, finalement, soulagement par rapport à la Chine, effectivement, net rebond. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur son potentiel ?
Oui, mais c'est vrai qu'avec ces histoires de droits de douane, on a vraiment... C'est les secteurs qui sont vraiment sur le... Sur le feu. Nous, sur ce secteur-là, on aime bien une valeur qui contient des spiritueux, hein, qui est LVMH, et qui, pareil, dans la phase de baisse, a baissé autant que le marché, même un petit peu plus, donc de 7 ou 8 %. On se dit que cette baisse, finalement, liée à la situation franco-française, elle crée quand même quelques opportunités d'achat. On est plus LVMH que
Rémi. LVMH, là, avec la baisse depuis le début de la semaine, on arrive sur des PE, enfin des niveaux de PE qu'on n'avait plus depuis longtemps, on imagine, sur LVMH, qui n'était déjà pas la plus chère des valeurs du luxe, loin de là. On imagine que le PE se détend encore un peu plus, là, Thierry.
Bah, c'est ça, alors de tête, on doit être autour de 22-23 fois les profits, donc c'est vrai que c'est des prix sur lesquels la société redevient abordable pour nous, et donc c'est des dossiers qu'on aurait envie de rentrer, ouais.
Merci beaucoup Thierry Gauthier en direct avec nous depuis GSD Gestion qu'on retrouvera à la clôture des marchés à 17h35. On parlera d'Apple. Thierry, si vous voulez bien, on vous demandera si à vos yeux Apple, avec ses annonces sur l'IA, Apple est en train de redevenir une vraie valeur de croissance. On vous propose un match tout à l'heure avec nos équipes web et notamment Julien Marion. Prêt à relever le défi tout à l'heure Thierry ?
Allez, vendu.
Allez, un match sur Apple. Est-ce qu'Apple, en redevenant première capi mondiale, retrouve aussi ses lettres de noblesse comme valeur de croissance ? Est-ce que c'est le retour d'Apple comme vraie valeur de croissance auquel on assiste cette semaine ? Le match, 17h35 tout à l'heure, Thierry Gauthier face à Julien Marion. En attendant, pour le CAC 40, le match du jour, il semble plié. On recule de 3% désormais sur le CAC 40. On accélère à la baisse. On est au plus bas du jour cet après-midi.
BFM Bourse. L'écho du monde.
Et Michel Rémy nous accompagne également pour Lévy Capital Partners pour essayer de comprendre pourquoi les marchés se focalisent à ce point sur la France. Bonjour Michel, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Alors le fait notable aujourd'hui, c'est que le 10 ans français, il est à 3,1%. C'est pas terrible quand on se compare à l'Allemagne, parce que l'écart s'amplifie, s'accroît. On a quasiment 80 points d'écart désormais entre la France et l'Allemagne. Ceci dit, 3,1%, c'est pas non plus l'incendie total. Comment est-ce que vous regardez la façon qu'ont les marchés de réagir à cette dissolution et aux perspectives politiques ?
Et en fait, là où la dégradation de la note de crédit par Standard & Poor's n'avait pas eu d'impact, on voit que les incertitudes liées aux élections législatives anticipées ont impacté le taux d'emprunt. Et ceci parce que les programmes proposés, que ce soit par les uns ou par les autres, refusent la contrainte austéritaire du pacte de stabilité. Et c'est ce qui inquiète les marchés, parce que c'est le coût des programmes qui risque d'être très élevé et qui va mettre mal encore plus les finances publiques, ce qui veut dire qu'il y aura une détérioration de la qualité de crédit de la France par rapport à l'Allemagne. Et donc, on risque d'avoir le risque du pire au plan budgétaire. Et donc, à mon sens, c'est dès juillet, voire relativement très proche, il sera nécessaire que, quelle que soit l'issue du scrutin, la France précise sa stratégie budgétaire. Et donc, dans les prochains jours, eh bien, le spread avec l'Allemagne pourrait, on va dire, s'agrandir, mais tout dépend de pas mal de choses. À mon sens, c'est des éclaircissements donnés par les uns et par les autres sur leur programme, d'une part, de façon un peu plus précise, et surtout de leur chronologie, et en même temps, surtout, du résultat des différents sondages qui risquent d'arriver sur l'éventuel vainqueur de ces élections. Et donc, tant qu'on n'aura pas ces aspects-là, on aura beaucoup de volatilité, et pourquoi pas voir le taux français se rapprocher du taux de l'Espagne. Mais à mon sens, ce qui est à redouter à court terme, c'est un blocage institutionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de gouverner parce qu'il n'y a pas de majorité, et ce qui risque d'arriver, d'amener une nouvelle menace supplémentaire pour la notation de la dette française. Et alors, la question qui va se poser et qui va s'entendre, c'est est-ce qu'on aura un scénario à l'Istrus ? À mon sens, quand j'entends scénario de la distress, c'est est-ce qu'il y aura une intervention de la Banque Centrale Européenne, on va dire par analogie avec la Banque d'Angleterre? Pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'on aura un pompier financier, mais à quelles conditions? Et ça sera surtout pour sauver la zone euro et en second lieu la France. Mais dans quel état la France va-t-elle sortir?
Alors Michel, vous mettez là tout de suite les grands mots. Bon, un scénario à la Liz Truss, besoin d'une intervention de la BCE. Et pourquoi pas le FMI? Non, on en parle parce qu'effectivement, ça rentre d'un coup dans le paysage. Ceci dit, on est d'accord, c'est dans un tout petit coin du paysage ou vous estimez que c'est bien ancré dans le paysage là? Ce scénario est bien ancré?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une majorité qui peut se passer, on risque d'avoir l'ingouvernabilité de la France. Oui. Et là, du coup, c'est plus la France qui est en jeu, c'est la zone euro. Et donc, la BCE devra jouer un jeu. Et donc, bien sûr, il y aura un jeu politique qui rentrera là-dessus. Et la question qui va se poser, c'est dans quel état, supposé qu'on arrive à déclencher quelque chose et qu'on fasse quelque chose sur la dette française, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la zone euro, on ne peut pas expulser un pays, donc il faut partir sur la base du volontariat. Et je ne pense pas que la France voudra partir. Donc il faudra, y a des problèmes au niveau de dette, et notamment de la dette vis-à-vis d'autres certains. Donc on risque d'avoir des tensions sur les taux d'intérêt, et donc on pourrait voir faire intervenir la BCE, qui serait, je dirais, le pompier financier, mais de dernier recours.
Ce qui doit être terrible pour le marché, c'est de se rendre quand même qu'on a, par exemple, dans les sondages d'intention de vote, 30% RN qui annoncent des dépenses qui ne sont pas compensées par de nouvelles rentrées. Pareil à gauche, 30 plus 30, on est à 60. C'est-à-dire qu'on a quand même une majorité et un pays là qui, d'un point de vue économique, après, chacun vote, mais d'un point de vue économique et vu des marchés, aujourd'hui, n'est pas parti pour adopter une direction qui devrait être celle de la France. C'est-à-dire que la France resterait dans une trajectoire de dérive des finances publiques dans un cas et dans un autre cas, sauf si le parti Renaissance, le parti présidentiel sortant venait à l'emporter, on ne sait jamais. Mais dans un autre cas, on aurait plutôt une absence de majorité absolue, une paralysie, un blocage parlementaire et ce ne serait pas forcément mieux du point de vue des marchés. Aucune des deux options, blocage parlementaire d'une part ou victoire de la gauche ou du RN d'autre part, aucune n'est mieux que l'autre. C'est ça l'idée aujourd'hui, Michel.
Oui, l'idée, c'est ça qui est, c'est qu'en fait, la sanction des finances publiques qu'on a toujours, échappé par les annonces de notation, en fait, la situation politique va nous projeter dans la réalité des choses.
Bon, le 10 ans français à 3,1, ceci dit, c'est là qu'il faut quand même relativiser. C'est qu'on a cet écart de taux croissant avec l'Allemagne, on est presque au même niveau de taux que le Portugal. 3,1, c'est loin, très très loin d'être l'incendie pour l'instant. Enfin, le taux de refinancement pour la France, pas terrible, ce serait mieux sous les 3. On n'est pas non plus sur des niveaux prohibitifs. Pas encore, Michel, on est bien d'accord là-dessus aussi.
Non, c'est pas prohibitif. Je fais le scénario catastrophe parce que on arrive au mois de juin, juillet. Tout dépend, quel que soit le bord. Il va falloir que le gouvernement soit constitué, qu'on donne une stratégie, qu'on donne des orientations. Et puis surtout, comme je dis, c'est la chronologie. Quelle mesure passe en premier ? Parce qu'il y a un programme, tout ne passera pas au 31 juillet. Donc après, c'est comment va-t-on arriver à gérer l'ensemble des promesses électorales et peut-être faire des amendements, de voir un peu comment ça se passe. Et c'est ça qui va un peu driver un peu l'orientation des taux. C'est ça qu'il faut bien voir. Et donc, déjà, une première indication serait de voir comment les marchés vont réagir par rapport aux sondages qui vont sortir à la fin du mois, à l'approche du premier tour et du deuxième tour.
Merci beaucoup, Michel Rouimi, depuis les bureaux de Lévy Capital Partners. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés cet après-midi. Cette question qu'on vous pose, vous tous, sur notre fil X et notre fil LinkedIn, BFM Bourse, en tirant le bilan de cette semaine, quelle a été pour vous la plus grande surprise de la semaine sur les marchés? Est-ce que ce sont les tensions sur l'OAT? Est-ce que c'est Apple redevenu cette semaine, Apple, la première capi mondiale? Est-ce que vous êtes davantage surpris par la Fed, qui quand même s'est montrée plus stricte avant-hier, ou par, alors c'est l'annonce d'hier soir, Casino qui va revenir dans le SBF 120. Voilà, quatre options, quatre moments qui ont marqué cette semaine boursière. N'hésitez pas à continuer de répondre, nous apporter vos arguments en commentaire. On rebondira dessus dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Allez, un pas de côté, comme c'est la tradition, vers 16h20, on va parler d'ESG, d'investissement responsable à travers un acteur qui a choisi alors le plus haut niveau d'exigence, article 9, Thierry Béchu, Canopy Asset Management. Bonjour Thierry, bienvenue. On parle de plus en plus des enjeux de biodiversité, les enjeux sociaux aussi, mais vous venez remettre la mairie au milieu du village, là, la mère des batailles. qui reste à vos yeux, bah quand même, malgré tout, la lutte contre le réchauffement climatique. On finirait presque par l'oublier à force de parler d'ESG. Quand même, au milieu du village, il y a la lutte contre le réchauffement climatique.
C'est en effet, en fait, le sujet essentiel que nous avons choisi de sélectionner chez Canopy. Pourquoi ? Parce que si on rate la lutte contre le réchauffement climatique, et en l'occurrence, l'enjeu majeur qui est de respecter les accords de Paris, on est à peu près sûr de rater tous les autres. Donc c'est vraiment la valeur cardinale qu'il faut essayer de respecter.
Sauf qu'on sent un peu l'intérêt baisser, voilà, l'ESG qui était très à la mode, là on parle d'effet de mode, ne l'est plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendance structurelle, mais sur le côté effet de mode, c'est un peu moins généralisé qu'il y a 2 ans par exemple. Est-ce que vous pouvez nous prouver, Thierry, tel est votre challenge aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous prouver que la lutte contre le réchauffement est un enjeu majeur pour les entreprises dans lesquelles chacun peut être amené à investir, qu'on est dans le pragmatisme à travers cette lutte contre le réchauffement?
Alors, effectivement, alors vous avez raison, Guillaume, d'insister sur le côté pragmatique, parce que en fait, on connaît tous les effets du réchauffement climatique. On sait que si on continue sur la même trajectoire qu'aujourd'hui, business as usual, ça veut dire 4 degrés, 5 degrés à la fin du siècle. Et ça, c'est une catastrophe. Tous les experts sont assez d'accord. Après, on va dire, il y a une vision un peu cynique de dire, bon, finalement, ce sont les petits oiseaux, c'est la biodiversité, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. La réalité, c'est que d'abord, le premier impact, il va être macroéconomique. Et ça, c'est souvent complètement occulté. Il y a plusieurs études qui sont sorties tout récemment qui démontrent que, premièrement, en termes d'inflation, 1 degré de plus, c'est à minima 0,4% d'inflation en plus. Ah. Et si on arrive effectivement à ces 4-5 degrés à la fin du siècle, c'est potentiellement 2-3%, avec évidemment un rôle crucial de tout ce qui est produit alimentaire, puisqu'on aura effectivement des manques à peu près partout. Plus grave, probablement encore, c'est au niveau de la croissance. Au niveau de la croissance, il y a une étude de NBER, qui est le Bureau de la Recherche Économique et Statistique aux États-Unis, vraiment des gens très sérieux, qui ont sorti un papier qui démontre que 1 degré de plus, c'est potentiellement 12% de croissance en moins. Et si on va encore à la fin du siècle à 4 ou 5 degrés de plus, c'est potentiellement un effondrement. On va parler de 30 à 40% d'effondrement du.
Effondrement s'il n'y a pas d'adaptation, mais il y aura adaptation, Thierry. L'humain, il s'adapte.
L'humain essaie de s'adapter, mais on voit que c'est compliqué. Là, je parle évidemment, s'il y a adaptation, ça veut dire qu'a priori, le réchauffement sera moindre. Et ça sera une très bonne nouvelle.
D'accord.
Mais si effectivement on arrive à 4-5 degrés, l'impact sur l'ensemble des continents sera tel que ça sera effectivement un collapse complet.
Alors tirer les marrons du feu, elle est un peu malvenue cette idée, mais voilà, enfin l'image en tout cas. Mais on est investisseur, évidemment on sera d'autant plus convaincu d'investir dans cette thématique de la lutte contre le réchauffement qu'elle sera pour le portefeuille qui est le mien rentable. Est-ce que vous pouvez nous apporter des idées de valeur dans lesquelles vous vous dites non seulement elles sont utiles pour la lutte contre le réchauffement, mais en plus pour l'investisseur elles sont rentables?
Oui, alors il y en a plusieurs. Je commencerai d'abord par effectivement Nexans. Nexans, qui est un leader mondial de l'électrification durable. Donc Nexans, c'est anciennement Alcatel-Cable. C'est 8 milliards de chiffre d'affaires, 25 000 personnes employées. Ils sont présents dans 45 pays et ils sont spécialistes dans tout ce qui est câblage électrique et aussi connectivité avancée. Donc ils sont vraiment au cœur de la transition électrique. Et rien que pour ça, en fait, c'est tout à fait intéressant. Ce qui renforce leur attrait, c'est effectivement leur engagement dans la durabilité. Et ils ont ainsi tout un ensemble de politiques qui leur permettent de réduire leurs émissions carbone, de recycler. Hein, ils ont un taux de recyclage qui est très élevé pour l'industrie. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis 2018, il y a un nouveau directeur général qui s'appelle Christopher Guérin et qui a mis en place, en fait, un nouveau type de management qu'il a appelé E3. Alors, E3, pourquoi ? Pour environnement, engagement, notamment sur la partie sociale, et économie. Et ça, c'est très nouveau, c'est-à-dire qu'il essaie de relier la partie en fait justement environnement et sociale à la partie économique. Ce qu'il a observé en fait dans son entreprise, c'est qu'il y avait tout un ensemble de sites et que tous les sites qui étaient les plus rentables, c'était ceux qui avaient les plus forts engagements environnementaux et sociaux. Donc il n'y a pas de hasard là-dessus. Oui. Et donc ce qu'il a mis en place, c'est vraiment tout un ensemble de mesures pour privilégier l'environnement et le social. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il a entrepris de faire, c'est tout particulièrement de mettre en place, à côté des returns sur les capitaux employés, des returns sur le carbone employé. Et ça, c'est assez unique. Et donc, en fait, chaque projet d'investissement, il va regarder qu'est-ce qu'on emploie comme carbone, qu'est-ce qu'implicitement ça coûte. Et en fait, il y a un prix du carbone implicite dans l'entreprise parce que c'est jamais gratuit in fine. Et donc, ce qu'on observe en tout cas, c'est que depuis 2019, on a l'EBITDA qui a augmenté de 70% et le carbone qui a baissé de 36%.
Thierry Béchu, voilà une idée d'investissement par exemple d'Extens, il y en a beaucoup d'autres et vous reviendrez nous en parler. Hein, il y
aura avec grand plaisir.
Canopy AM, Canopy avec un K au début.
Avec un K et un Y à la fin.
Merci beaucoup Thierry de nous avoir accompagnés. Dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour. Mais nos intervenants nous en apprennent toujours beaucoup. Beaucoup de choses dans BFM Bourse, à nous tous et à moi en premier. Qu'est-ce qu'on en apprend auprès de vous, les différents intervenants de l'émission, effectivement. Et pour moi, il y a une grande leçon à retenir de cette semaine. Ah oui, c'est un peu comme à l'école, c'est très personnel, mais j'apprends et je m'instruis aussi grâce à nos experts. Pour moi, leur leçon de la semaine, c'est qu'un printemps pourri n'est en rien prédictif d'un été qui serait lui aussi pourri. Une Seine dans laquelle on peut pas se baigner en juin parce qu'il y a encore trop de débit peut quand même être baignable, pourquoi pas, un mois plus tard, au mois de juillet. Bref, sur les marchés, comme dans la vie, il ne sert à rien de vendre la peau de l'ours et de crier « défaite trop tôt ». Pourquoi je dis ça? Regardez la Fed, elle ne prévoit plus qu'une seule baisse de taux cette année. Une seule, alors que l'inflation ralentit beaucoup plus qu'attendu. C'est ce que montrent tous les derniers indicateurs. Et c'est la grande leçon que Gilles Mouet, qui hier nous a apporté, le chef économiste du groupe AXA. Les dot plots de la Fed, nous a-t-il dit, sont désuets, déconnectés des derniers indicateurs. La Fed est peut-être désormais trop pessimiste sur l'inflation. Elle crie « défaite ». Trop tôt. Si vous avez raté l'intervention de Gene Wex, elle est à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Une autre preuve qu'il ne faut jamais partir défait. Apple compensé, foutu en bourse, dépassé par Nvidia par exemple. Et bien cette semaine, pendant que la France s'enfonçait, Apple a ressurgi. Apple est redevenu la première capi mondiale. Un rallye fulgurant. Les trois dernières séances de hausse sont les trois séances de hausse les plus fulgurantes depuis août 2020 pour ce titre Apple. Le catalyseur, c'est l'IA qui alimente l'espoir que les clients paieront pour la prochaine génération d'iPhone. Le revival, ça existe et Apple nous le prouve. Il ne fallait pas enterrer Apple trop vite. Cette semaine de marché montre que pendant que la France s'écharpe, le monde ne nous attend pas et continue, lui, d'avancer. C'est pas parce que la Seine est trop haute en juin pour s'y baigner qu'elle le sera encore en juillet. L'eau continue de couler sous les ponts des marchés. Voilà la grande leçon que nous aurons appris des marchés et nos intervenants de BFM Bourse cette semaine.
Très bien, élève Sommerer. Vous avez bien résumé la leçon de la semaine sur les marchés. Un journaliste qui écoute de si près les marchés, c'est notable. On voit qu'on est dans BFM Bourse. Mais il vous reste beaucoup à découvrir. À vendredi prochain pour la prochaine leçon.
Avec plaisir. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. C'est pas dans BFM Bourse qu'on va finir d'apprendre. On en apprend tous les jours grâce à tous nos experts. La leçon de la semaine chaque vendredi. Dans un instant d'ailleurs, ils ont beaucoup à nous apporter. Aujourd'hui, sur cette séance compliquée, le CAC perd 3%. Nos analystes techniques, André Atouini puis Saxo Bank nous dira alors comment les choses évoluent, les prochains seuils techniques, les prochains paliers sur lesquels on pourrait espérer voir le CAC finir par rebondir. Il nous dira ce qu'il détecte dans son viseur. On parlera aussi des CDS, tiens, sur la France. Et puis, on abordera, voilà, ces quelques havres qui résistent quand même dans le marché malgré cette nouvelle baisse aujourd'hui. Ce sera après la pause. On se réunira en famille, comme chaque jour, jusqu'à 17h. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille réunie jusqu'à 17h, les équipes radio télé et les équipes web de BFM Business, BFM Bourse. Jean-Louis Dallaureau est avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Bon, on est à combien? Moins 3% à l'instant, moins 3% sur le CAC. C'est pas le bilan hebdomadaire, c'est la séance du jour. Donc sur la semaine, on doit être à moins 7 là, à peu près.
Oui, moins 6,5, moins 7, faudra faire le calcul à la clôture. Bah, c'est a priori la pire semaine sur le CAC 40 depuis 2022, a priori depuis mars 2022, c'est-à-dire depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ouf. Donc encore une très très mauvaise séance. Et on a quand même un peu l'impression que le marché a pris plusieurs jours, en fait, pour digérer l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, hein, que ça s'est pas fait d'un coup. Il a fallu que le marché réfléchisse un petit peu.
Il digère mou, hein. Enfin, pardon, mais c'est compliqué.
En tout cas, il met un peu de temps.
Il ne faut pas digérer, là.
Et je pense aussi qu'on commence un peu à jauger les coûts budgétaires des différents programmes et qu'est-ce que ça pourrait impliquer en matière de déficit public. Et donc, assez logiquement, hein, ça c'est sûr, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, ce qu'on appelle aussi le spread, s'est beaucoup creusé tout au long de la semaine. Mais il y a quand même un paradoxe là-dessus. Oui. Parce que les taux sont à peu près au même niveau que vendredi dernier pour la France. On est autour de 3,17% sur l'OAT 10 ans, quand j'ai regardé tout à l'heure. Mmh. On était à 3,11 ou 3,10 il y a une semaine. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand les marchés actions plongent, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on se réfugie vers les valeurs les moins risquées, donc les obligations d'État. Et donc ça fait monter le prix des obligations. Et les obligations montant, en fait, leur rendement baisse. Donc, les taux baissent. Seulement, on s'est plus réfugié sur les obligations allemandes que les obligations françaises. Donc, les taux allemands ont largement baissé, alors que nous, on est plutôt stable ou un tout petit peu en hausse. Et donc, l'écart se creuse.
Effectivement. Alors, justement, quel potentiel, quelle perspective désormais, parce qu'on est quand même sur une nouvelle séance très difficile. Il faut regarder aussi comment, où en sont les volumes sur le CAC 40. Il va nous aider à y voir clair sur tout cela. On a besoin de vos repères. Andrea Twenny depuis Saxo Bank. Bonjour Andrea. Ravi de vous retrouver. Elle est très compliquée cette séance. C'est la pire séance de la semaine, là, clairement. Moins 3% sur le CAC, sous les 7472 points. Est-ce que cette baisse, en plus, se fait dans de gros volumes? Est-ce que techniquement, vous sentez que, oui, cette baisse est amenée à se poursuivre? Andrea.
Tous les voyants sont rouges, là au moins c'est clair. On n'a pas d'indicateur technique qui nous rassure. On a un marché qui en effet baisse assez fortement. On a cassé plusieurs niveaux de support. On espérait encore il y a quelques jours qu'on arriverait à rebondir sur un niveau de support, une zone 7550. On l'a cassé. On est revenu là sur un autre niveau de support qu'on avait fixé, 7464. On est sur ce niveau, on est en train de le tester. Le problème c'est que si on casse ce niveau, en dessous il n'y a pas grand chose. Les niveaux qui peuvent tenir c'est 7400, 7280, 7300, donc c'est des niveaux de support qui sont assez légers, mais vraiment il y a des fortes probabilités que si on continue à creuser sur le marché, on peut revenir tester une zone de support 7280, 7300. C'est la prochaine grosse zone de support, le prochain gros niveau à surveiller du coup sur le CAC. Vous l'avez rappelé, c'est la pire semaine depuis mars 2022 et le déclenchement de la guerre en Ukraine. On a des volumes qui sont importants, on a aussi une volatilité qui est repartie à la hausse. Et ce qui est aussi marquant, c'est que on a d'un côté meilleure performance depuis avril pour le moment sur le Nasdaq et pire performance depuis mars 2022 sur le CAC. Donc on a un écart aussi avec les marchés américains, une sous-performance du CAC en Europe, mais une sous-performance du CAC aussi quand on regarde outre-Atlantique. Et ça, à la limite, c'est peut-être même rassurant de voir que pour le moment, les marchés américains tiennent. Il n'y a pas trop de problèmes, on est sur des niveaux records sur certains indices. Mais si ça venait à s'inverser, si on venait à avoir un mouvement négatif sur les marchés américains, là, il n'y a plus grand-chose qui pourrait soutenir, on va dire, les marchés européens et surtout soutenir le CAC. Donc la vision, pour le moment, elle est assez négative, elle est assez inquiétante. On n'a aucune divergence sur les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, clairement, les voyants sont en rouge.
Bien, on est vendredi, on se remonte tous le moral, on est bien là tous ensemble. 3,04, c'est la baisse du CAC 40, moins 3,04% à l'instant, 7474 points. Andrea, quand on regarde sur le marché obligataire, alors Jean-Louis le disait à l'instant, c'est le paradoxe, le 10 ans français, il est à peu près au même niveau qu'avant la dissolution. On est à 3,11 là sur le 10 ans français, c'est à peu près le même niveau que vendredi dernier, 3,11 à l'instant. Mais c'est l'écart de taux avec l'Allemagne qui inquiète puisqu'on est à quasiment 80 points d'écart de taux. Vous regardez aussi ce marché obligataire d'un point de vue technique, comment est-ce que vous voyez la suite des dynamiques, on va dire?
Exactement, ce qui nous intéresse vraiment c'est cet écart et ce spread. En ce moment il est autour de 77-78. Si on regarde, c'est la plus forte hausse hebdomadaire depuis 2011, c'était la crise des pays périphériques en Europe. Donc pour resituer un petit peu, c'est une augmentation du spread en hebdomadaire qui est énorme. Donc on voit quand même qu'il y a un gros stress sur le marché obligataire et c'est le spread le plus élevé qu'on observe depuis 2017 à peu près, certains diront 2012, mais du coup on revient quand même très loin, c'était les élections en 2017 d'ailleurs, et c'est vraiment ces niveaux de spread qu'on observe aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Donc aujourd'hui, ça peut continuer. Si on continue, si on passe au-dessus des 80, on revient sur des niveaux de 2012. Et alors là, derrière, on peut aller chercher des écarts de 100 points de base, etc. Donc il faut être extrêmement vigilant. Mais vraiment, ce qui est important, c'est vrai qu'on le rappelle, mais si on regarde, par exemple, le 10 ans par rapport à la Grèce, on est autour des 3,50, 3,60 sur la Grèce. On n'est pas très loin de ces niveaux-là. Si on se rappelle de la situation de la Grèce il y a encore quelques années, on est au niveau du Portugal. À un moment donné dans la semaine, la France empruntait plus cher que le Portugal. Donc si on resitue un petit peu ça dans la situation des taux en Europe, l'augmentation de ce spread et la situation aujourd'hui de l'OAT français est un petit peu inquiétant.
Alors c'est vrai, hier notamment, l'OAT français, le 10 ans français était au même niveau que le 10 ans portugais, incroyable. Là on a un 10 ans français à 3,11 à l'instant, pas très loin de l'espagnol, 3,28 l'espagnol, et le grec est à 3... Attendez, on est en train de regarder 3,64 en ce moment le grec. Le 10 ans grec est à 3,64 et le 10 ans français à 3,10. C'est-à-dire que le 10 ans français est aujourd'hui plus proche, l'écart de taux est plus resserré entre la France et la Grèce qu'entre la France et l'Allemagne, Andréa.
C'est ça. Donc c'est un signal qui est pas très très rassurant pour le coup, et ça met un peu en perspective l'évolution. Mais encore une fois, ce qui nous marque et ce qu'on observe aujourd'hui qui est assez important, c'est vraiment l'augmentation hebdomadaire. Si on se replace par rapport au spread allemand, français et allemand la semaine dernière, et si on se place cette semaine, on a la plus forte augmentation depuis 2011. Donc le move est assez important.
Après, au niveau absolu, on est très très loin des niveaux de la dette, la crise des dettes de 2011. Hein. Là, le 10 ans français à 3,10, on en est très très loin. Les niveaux à l'époque étaient beaucoup plus prohibitifs. Les CDS, faut regarder aussi les assurances. Tiens, sur la France, comment est-ce que les CDS sur la France évolue-t-il aussi, Andréa ?
À la hausse, le CDS 5 ans, il est au niveau de 38, hein, 38 points de base. C'est un plus haut depuis octobre 2022. Le prochain niveau, c'est au-dessus des 40. Et là, on reviendrait sur des niveaux de 2020. Donc là aussi, on a du stress, on a une augmentation. Donc on a un coût d'assurance qui logiquement augmente. Quand on voit le mouvement qu'on a sur l'obligataire, forcément, l'assurance augmente. Et il y a aussi un sentiment aussi, on le voit, hein, que ce soit sur les indices ou sur l'obligataire, il y a quand même un sentiment, on est dans un marché risk-off sur le CAC, on est à l'approche d'un week-end. Donc logiquement, ça accentue les mouvements en fin de semaine. Et c'est aussi ce qui explique la baisse qu'on observe aujourd'hui sur les indices.
Alors le CAC sur la semaine perd 6,5% à peu près, c'est deux fois plus que le DAX par exemple. L'euro aussi aura trinqué cette semaine, Andréa, il faut qu'on dise un mot des devises. L'euro sous le dollar 0,7, ceci dit, il a reculé. Hein, on est à 1,0671, on ne va pas se cacher, l'euro a reculé. Mais peut-être un peu moins qu'il n'aurait pu reculer. Enfin, comment est-ce que vous interprétez le mouvement de l'euro sur la semaine ?
La baisse, elle est quand même marquée. Hein. On a quand même cassé des niveaux. 1,0725, c'était un gros support, hein, sur l'euro. Si on regarde sur les précédentes semaines, c'est des niveaux sur lesquels on est parvenu à rebondir, ou en tout cas des niveaux desquels on s'éloignait. On était plus proche d'un 0,9 que des 1,05. Là, vraiment, avec cette cassure des 1,0725, on est sur un niveau de support, 1,0665 à peu près. Les prochains niveaux, c'est 1,06. Et pour avoir une embellie, il faut repasser au-dessus des 1,0850. Tant qu'on reste en dessous d'un 0,850, on a quand même un risque plus important d'une baisse et de se rapprocher des 1,05 que l'inverse.
Merci, André. Qui sera avec nous à la clôture des marchés également tout à l'heure à 17h35 en direct, en espérant qu'on parvienne à limiter les dégâts. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Notre CAC perd 3%. Et puis alors qu'on a un écart de taux qui s'accroît entre la France et l'Allemagne, eh bien la Banque publique de développement, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, reporte l'émission d'un green bond qui était prévu, cette émission aujourd'hui. Ouais. Autant Jean-Louis reportait certaines émissions et adjudications, on pourrait voir ce genre d'annonce peut-être se multiplier. On va voir si la situation sur la France reste particulièrement tendu, quoi. Il n'y a pas intérêt à réaliser des adjudications et des émissions de la part du Trésor dans une période de tension.
Oui, c'est peut-être pas la meilleure période pour faire ça, mais bon. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude sur les levées de fonds, les levées de dettes françaises.
Non, effectivement. Et on rappelle, vraiment, il faut tout relativiser parce qu'à la fois, effectivement, il y a l'écart de taux avec l'Allemagne qui s'accroît, mais le niveau absolu de la dette française d'emprunt reste raisonnable. Ça va, 3,11. On est même toujours sur une complaisance de marché. Hein, c'est ce que nous disait tout à l'heure Igor Demac. Il nous disait dans la Bourse Cash, le marché reste complaisant avec un 10 ans français à 3,11. C'est ce qu'il nous disait, son argumentaire à retrouver d'ailleurs en replay sur notre application BFM Business. Alors justement, on tire le bilan de cette semaine et c'est aussi l'objet de notre question du jour sur notre fil X BFM Bourse. C'est notre fil LinkedIn. On vous demande, vous tous qui nous suivez, quelle a été à vos yeux la plus grande surprise de la semaine ? Est-ce que ce sont les tensions qu'on évoquait à l'instant sur l'OAT ? Est-ce que c'est Apple redevenu cette semaine première capi mondiale ? Est-ce que c'est ça qui vous a surpris ? Est-ce que c'est la Fed, plus restrictive la Fed ? Ou Casino, c'est l'annonce d'hier soir, Casino qui va faire son grand retour dans le SBF 120. Qu'est-ce qui vous a, vous tous, le plus surpris sur la semaine en bourse ? Jean-Louis, vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ?
Alors, si on parle de l'OAT, hein, la dette française à 10 ans, qui se tend, bon, c'était quand même attendu. Moi, à la rigueur, c'est même plus la surprise à inverse. C'est-à-dire que lundi matin, ça s'est assez peu tendu, je trouve, surtout après l'annonce de la dissolution. Donc, le marché a un petit peu mis du temps à digérer. Et le spread aussi n'était pas totalement en train de s'écarter avec l'Allemagne à ce moment-là. Bon, depuis, ça s'est creusé. La Fed plus restrictive, c'est pareil. C'était relativement... en tout cas, c'était attendu qu'il n'y ait pas une baisse de taux tout de suite. Alors, ils sont un tout petit peu plus restrictifs dans leurs prévisions d'inflation. Donc, bon, à voir. Mais ce n'est pas non plus, pour moi, une giga surprise. En gros, ils disent, Il prépare le terrain pour une baisse de taux.
Une seule baisse de taux.
Une seule baisse de
taux. Ça vous surprend pas plus
en septembre.
Ça.
Bon, voilà, le marché prévoyait peut-être deux, voire trois baisses.
C'est une petite surprise, mais pas une énorme. Quoi.
En tout cas, le mouvement va être enclenché au deuxième semestre. Bon, ça, c'est pareil, c'est pas une énorme surprise.
Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris?
Bah moi deux choses, donc Apple qui redevient la première capitalisation mondiale, c'est vrai qu'on l'avait pas forcément vu venir. Pour moi c'est la vraie surprise de cette semaine. Alors je signale quand même que là Microsoft est repassé devant, là ça se joue à rien, mais c'est vraiment oui. Ça, les deux sont à touche-touche. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Apple? Bah c'est tout simplement qu'Apple qui avait raté le virage de l'IA depuis longtemps, et bah là ça y est, ils y sont, partenariat avec OpenIA annoncé lundi, et de nombreux analystes pensent que ça y est, il va y avoir ce qu'on appelle un upgrade cycle. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se rééquiper de nouveaux iPhones parce qu'ils auront plein de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA.
Ça pourrait booster enfin l'iPhone 15 qui a du mal, par exemple.
C'est ça. Et c'est vrai que le parc d'iPhone est un peu vieillissant. Donc, il peut y avoir un appel d'heure comme ça. Donc, ça a boosté la capitalisation du groupe. Et puis, en plus, le groupe qui était plutôt à la peine. Alors, ça remontait un petit peu depuis début mai, mais qui était quand même... C'est pas terrible les derniers mois. Et l'autre surprise pour moi, bah, c'est quand même le retour de Casino dans le SBF 120. Oh, non, ça, on l'avait pas vu venir.
Vous rigolez, pas vous. Ça vous a surpris, franchement. C'est la grosse surprise de la semaine. Jean-Louis Delouro, le CAC 40 perd 3%, moins 7 sur la semaine. La grande surprise, c'est le retour de Casino dans la BF120. Mais c'est une blague.
Non, moi, je mets Apple d'abord en premier. Mais Casino, ça m'a quand même surpris.
Ouais, on va en parler dans un instant. Effectivement, Casino qui va revenir dans la BF120, figurez-vous. Bon, eh ben vous êtes 28% à, comme Jean-Louis, avoir été surpris par le retour de Casino dans la BF120. C'est le résultat de vos votes. Mais vous êtes plus nombreux, 41% quand même à être surpris par les tensions sur l'OAT, 41%. Donc devant Casino, puis Apple, première capi mondiale, vous êtes combien là ? 20% à être surpris par le retour d'Apple au rang de première capitalisation mondiale. Alors tout à l'heure, ce sera dans On refait la séance à 17h35, on se demandera si, oui, alors Apple est peut-être redevenu première capi mondiale, mais est-ce que Apple est vraiment redevenu une vraie valeur de croissance ? Est-ce qu'Apple a retrouvé ses lettres de noblesse comme valeur de croissance ? Franchement, oui ou non ? On organisera un match là-dessus, deux avis complètement opposés. Ce sera à partir de 17h35, un match autour, un fight, une battle autour d'Apple. Mais c'est vrai que la surprise du jour, c'est peut-être Casino quand même, qui va donc revenir dans le BF 120. Ça vous surprend tellement, Jean-Louis, ça vous surprend tellement que vous y consacrez un article. L'article est d'ailleurs en ligne sur notre site bfmbourse.com.
Tout à fait. Bah, en fait, c'est que le marché pense que le plus dur est quand même passé pour Casino. Alors, je le rappelle, hein, Casino, depuis le début de l'année, l'action, c'est quand même moins 95%. Il y a eu une très, très lourde restructuration avec une dilution qui a été massive des actionnaires, des anciens actionnaires. Alors, le groupe a été repris, hein, on le rappelle, par un consortium qui est formé des hommes d'affaires Daniel Kretinsky et Marc Ladret de la Charrière. Et ils sont alliés au fonds d'investissement britannique Attestor. Donc ça y est, la recapitalisation a été faite, le groupe est globalement désendetté, et ben ça permet aussi à l'entreprise d'être mieux valorisée en bourse, et elle pèse désormais 1,5 milliard d'euros, donc ça y est, c'est redevenu une capitalisation quand même d'une certaine taille, ce qui lui permet sans doute de réintégrer le SBF 120. Alors maintenant, ce que vous regardez les marchés, c'est maintenant que le problème structurel sur la dette est plutôt assaini, est-ce que l'opérationnel suivra ? Parce que le groupe a perdu beaucoup de parts de marché, il a d'énormes problèmes de cash flow. Donc là, par contre, ça ne pardonnera pas si les premiers résultats après post-restructuration ne sont pas bons.
Casino, donc l'article est consultable, n'hésitez pas à le lire. Bien sûr, on y reviendra bien sûr dans la suite de l'émission. On reviendra sur Apple, redevenu cette semaine première capitalisation mondiale, les OAT aussi. Alors surtout l'écart de taux avec l'Allemagne, parce que le niveau absolu de l'OAT du 10 ans français est pas énorme, hein, 3,11, ça reste assez complaisant. Mais voilà, l'écart avec l'Allemagne, lui, reste assez spectaculaire.
Et puis la comparaison avec l'Espagne ou la Grèce ou l'Italie est assez parlante. Hein.
Et Andrea Twini nous disait tout à l'heure, on est quand même sur le pire écartement de taux là pour la France depuis la crise des dettes de 2011. Hein, c'est ce nous disait, j'ai bien entendu, Jean-Louis, effectivement.
Tout à fait. Ou là, on se posait quand même carrément la question de savoir si l'euro allait tenir, et si la zone euro allait tenir, et si ça n'allait pas éclater.
Voilà. Alors, les écarts absolus à l'époque étaient plus importants, mais le rythme d'amplification des écarts, lui, on ne l'avait pas vu, c'est ce rythme d'amplification des écarts depuis 2011. Tiens, on vient de sonner, on est d'accord. Attends, regarde là, qu'est-ce qui vient de sonner ? C'est Cyril Collet, CPR Asset Management. On lui dit de venir pour le club à 17h. Ben venez, Cyril, allez-y, venez. Bienvenue. Cyril Collet est un peu en avance. C'est notre invité décalé. Notre invité décalé, il a un coup d'avance. On vous avait dit de venir à 17h, vous arrivez avec 11 minutes d'avance. Vous êtes comme ça, vous.
Voilà. Je voulais vous parler d'un sujet un peu sympa.
Sujet grave, au point.
Non, pas grave, sympathique.
Simis sur le plateau de BFM Bourse et BFM Business. On est ravis de vous accueillir, Cyril. Alors justement, on va profiter du fait que vous soyez un petit peu en avance. Avant que les autres invités n'arrivent dans quelques minutes. pour peut-être se parler plus intimement, ça vous dérange pas ?
Allons-y.
On se confesse ?
Allons-y, on se confesse.
On peut se faire du bien ou pas ? Et parler. Alors, on va parler de dividendes dans un instant parce que vous voulez nous faire du bien, mais on peut pas ne pas vous poser la question sur l'ambiance de marché à moins 3% le CAC 40. On peut se faire du bien quand même. On peut mettre de l'adoucissant dans le propos, même quand le CAC perd 3%, ou vous êtes en panique aujourd'hui? Vous êtes au contact des clients, etc., CPRM. Vous êtes en panique, là? Vous êtes en avance parce que vous êtes en panique ou pas, là, Cyril?
Il n'y a pas de panique. D'accord. Si vous regardez les mouvements, c'est vrai que dans la zone euro, c'est difficile. Je vais pas reprendre de ce que vous venez d'expliquer. Ça reste vrai. Les élections européennes, c'est mettre au Parlement européen des gens qui ne sont pas vraiment pour l'Europe. Donc on rigole un peu, mais c'est quand même comme ça. Et c'est vrai que ça met un peu des tensions. Et quand vous regardez ce qui se passe au Japon, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis ou dans les pays émergents, voilà, c'est un épiphénomène. Maintenant, c'est vrai, c'est pas du tout neutre. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est neutre. D'ailleurs, la bourse aujourd'hui réagit enfin, je dirais, assez naturellement au mouvement de taux. Pendant des mois, on disait les actions montent, quand les taux montent, finalement, c'est pas logique. Là, ce qui est très logique, c'est que si on pense qu'effectivement, il va y avoir des changements dans la politique française, que les budgets vont être plus difficiles, que les taux longs vont rester hauts, plutôt les spreads vont s'écarter par rapport au niveau d'endettement de l'Allemagne. Toutes les entreprises françaises vont se refinancer beaucoup plus cher. Et donc, du coup, la valorisation soit attaquée, c'est logique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça va se passer? Est-ce que c'est pas de la surréaction? Je pense quand même qu'on est aujourd'hui dans la surréaction. Mais en attendant, ce qui se passe, hausse des taux, baisse de la valorisation action, c'est très logique.
Le CAC, depuis le début de l'année, il était en état hausse. Hein.
Oui.
Il recule désormais, là, avec la baisse du jour, on recule de 0,5% depuis le 1er janvier sur le CAC 40. Incroyable. Quand Wall Street est sur des records, c'est ça qui est incroyable. On a quand même un marché américain sur des records, encore hier soir à Wall Street, le S&P et le Nasdaq, et le CAC, lui, sur la semaine, perd 7%.
Oui, mais là où c'est un petit peu exagéré, c'est que si vous regardez les grosses entreprises du CAC 40, Hermès, Sanofi, Total et autres, c'est des gens qui sont très très peu impactés par le marché français, c'est des gens qui font la plupart de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc cet impact-là, c'est plus, entre guillemets, un risque pays qui est effectivement mis en cause, mais qui me semble encore une fois vraiment exagéré à court terme.
Bon, on va en parler plus en détail tout à l'heure dans le club, rendez-vous à partir de 17h, on explorera les tendances de marché, on interprétera le message des marchés beaucoup plus en profondeur encore avec nos autres intervenants et Raphaël Thuin pour TQOM qui nous rejoindra également. Mais puisque vous êtes là en avance, on se fait du bien, c'est ce qu'on s'est promis. Un petit peu d'adoucissant, de douceur dans ce monde de brut. Il est compliqué, le marché. Oui, je ne sais pas comment me sortir de certains lancements. Vous êtes venu nous parler...
Adoucissant, c'est le mot du moment. Allez, on
dividendes, vous êtes venu nous parler de dividendes. Ça fait du bien de parler de dividendes. Pour l'actionnaire, même quand le marché chute, l'actionnaire se rassurer en pensant à ses dividendes à venir.
Oui, alors c'est une des fonctions du dividende, c'est de dire aux gens, vous avez investi, on va vous donner 2-3%, ça dépend des endroits. En moyenne, 2% aux États-Unis, entre 3 et 4% côté Euro-Europe.
Et votre message, c'est le dividende n'est pas mort. On se fait peur, l'instabilité politique, tout ce qu'on veut. Le dividende, lui, est toujours là.
Oui, parce que ça a longtemps été utilisé comme un signal de bonne santé des entreprises, c'est-à-dire mon bilan va bien, je suis capable de payer mes fournisseurs, je suis capable de faire des investissements, je suis capable de produire, et en plus, cerise sur le gâteau, je détache un dividende. À la fin du fin, le cours monte ou baisse. Bon, y a des gens pour en parler très bien.
Et pour l'investisseur, c'est un peu la veilleuse dans la nuit, quoi. Voilà, il fait nuit, il y a une veilleuse qui est là.
Oui, ou c'est juste, vous avez le choix entre un actif qui fait du taux avec un coupon garanti et des actions avec un coupon non garanti. Donc quelque part, quand vous avez des entreprises qui sur le très long terme sont capables de détacher un coupon qu'on appellera dividende pour les actions, c'est quand même très rassurant et c'est quand même très intéressant. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, c'est ce dividende, ces 10-15 dernières années, il a été beaucoup remplacé par des rachats d'actions, principalement sur les entreprises américaines, principalement sur les valeurs technologiques américaines. Et on s'est rendu compte, on a fait une petite étude assez marrante, depuis fin 2022 jusqu'à fin mai 2024, il y avait avant dans les secteurs information, technologie, communication et on va dire consommation non courante, on est obligé de mettre ce secteur-là parce qu'il faut mettre Amazon, hein, bien entendu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 106 entreprises sur les 220, sur les 205 dans ces trois secteurs qui ne payaient pas de dividendes. Or, depuis un an et demi, il y en a 8 qui se sont mis à en payer. Si vous mettez, si vous calculez la performance équipondérée, on a fait simple, chacun vaut la même chose, des 8 entreprises, le panier a progressé de 73%. Celles qui n'en payent pas, le panier a progressé de 44%. Donc, il semble, même...
Quand on rachète ses propres actions, ce qui fait monter... Alors, voilà.
Alors, attends, il y a deux choses différentes. Non, il semble que même le dividende auprès des valeurs de croissance a toujours cette fonction de signal sur mon bilan est solide, vous pouvez me faire confiance sur le long terme. Je ne parle pas des entreprises du Nasdaq qui ne font pas de profit, que beaucoup de gens aiment agrafer en tout cas leur performance pour dire voilà, on est en bulle, on n'est pas en bulle, celles qui ne font pas de profit gagnent, on est en bulle. Mais là, le signal il est très différent. Quand Meta et Alphabet par exemple qui ont racheté des actions pour 50, 40 milliards, 70 milliards ces dernières années, vont payer un dividende, c'est entre guillemets juste pour le fun. Elles n'ont pas besoin de faire ça.
Oui.
Financièrement, elles n'ont pas besoin. C'est juste le thème de je change de profil. J'étais une valeur de croissance qui avant regardait que mon bilan, éventuellement rachetait énormément d'actions, comme ça je fais croire à tout le monde que je fais beaucoup de bénéfices par action, et puis on regarde un peu moins mon vrai résultat en dollars. Bon, c'est une technique qui marche plutôt bien. Mais au-delà de ça, ces gens-là ont dit non, je veux changer de catégorie. Je ne suis plus une valeur de croissance, je suis une valeur mature. D'autres diront une valeur défensive et je suis une valeur de rendement. Et pour énormément d'investisseurs, ça a changé la donne. Et la performance des paniers, même si ça ne fait pas loin, on parle d'un an et demi, mais quelque part, c'est que je trouve ça quand même très très intéressant parce que ça veut dire que oui, la fonction du dividende est toujours regardée par les investisseurs. Et si vous allez en Asie, la plupart des fonds actions qui sont lancés en 75-25 très souvent. C'est-à-dire 25% de taux, 75% d'actions. Parce que l'investisseur asiatique, il veut du rendement. Quoi qu'il arrive, même dans son fonds
actions. Donc l'idée, c'est que les rachats d'actions, parce que vous avez cité là des entreprises qui procèdent à des rachats d'actions absolument colossaux, les rachats d'actions ne feront pas mourir le dividende, loin de là. Le dividende apporte un surplus de potentiel aux valeurs, aux entreprises qui choisissent d'en verser.
Oui, alors les rachats d'actions qui sont massifs depuis 2014, on parle de 925 milliards, juste pour donner un chiffre, en 2024, pour les entreprises américaines, dont 47 font 80%, donc les grosses technologiques. Donc ces rachats d'actions sont très très importants. Il gonfle encore une fois les chiffres par action, qui du coup c'est quand même assez marketing, mais bref. Mais au-delà de ça, ils ne sont pas uniques maintenant, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire du rachat d'actions, mais aussi à détacher un dividende, et du coup envoyer un signal à la bourse qui est assez, aux investisseurs, ou à la bourse, qui est assez différent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, ça change la nature des valeurs qui le font, même si, pour prendre les deux plus gros exemples, Meta et Google, globalement, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de ça.
Quel est l'impact de l'environnement macroéconomique et politique aussi, ici par exemple en France, sur ces pratiques, puis ça s'adresse à quel type de client quoi?
Le client, comme j'ai dit, c'est un client qui fait du rendement. Je parle du client asiatique parce qu'on les connaît bien, on gère beaucoup pour eux et on sait qu'ils sont très attachés à ce type de rendement. Il y a même des fonds en Asie où vous avez un paiement de coupon trimestriel, même si vous n'avez pas perçu de coupon. Ça veut dire qu'il est directement pris dans la net asset value de votre fonds et votre fonds va perdre, entre guillemets, en actif net. Il va s'auto-distribuer, même s'il ne perçoit pas tout, parce qu'ils sont très attachés au coupon. Mais en France, il y a beaucoup d'assureurs vie, il y a beaucoup d'investisseurs très long terme qui sont très attentifs à ce qu'on appelle au rendement du dividende et donc à l'ensemble des entreprises qui sont capables de détacher un dividende. Ça vous change la nature d'une entreprise d'un point de vue investisseur et je pense que c'est vraiment important. Pour l'environnement, ça va dépendre du niveau de taux. Si vous détachez 3 à 4% de dividendes et que votre taux long est à 2%, c'est une prime très très intéressante, d'autant plus que si vous faites ça, c'est que vous avez un bilan solide. Donc du coup, vous allez rentrer dans tous les portefeuilles corps. Si jamais les taux sont à 4 et que vous détachez un faible dividende, là pour le coup vous ne marquez pas de différence et il y a moins d'intérêt.
Les clés des choix, des stratégies de redistribution des différentes entreprises, c'est Cyril Collet, notre invité décalé. Il a un coup d'avance, il est arrivé un peu plus tôt qu'on lui avait demandé, mais il sera là aussi dans un instant pour le club à partir de 17h. On reviendra bien sûr sur les tensions autour de la France, mais d'abord on termine ce moment en famille avec Jean-Louis également, Jean-Louis Dallaureau qui nous accompagne, les équipes web de BFM Bourse, avec ce Factor X. Chaque jour effectivement on vous scrute, vous tous, on essaie de détecter les posts sur le fil X ou encore sur LinkedIn à forte valeur ajoutée que vous mettez en ligne. Et on a repéré ce post aujourd'hui, c'est sur X, de Dan Eaves qui nous dit, Dan, qu'il pense que la barre des 4000 milliards de dollars de capitalisation sera atteinte d'ici un an, là, dans l'année à venir, pour Apple, Microsoft ou encore Nvidia, qui viennent tous de franchir la barre des 3000 milliards. Ben pour lui, d'ici un an, ils franchiront la barre des 4000 milliards de dollars de capitalisation chacune.
Alors, il faut savoir déjà que c'est un analyste phare de la Silicon Valley et des marchés. Oui, 4000 milliards, ça paraît gigantesque, mais sauf que, en fait, on était à 2000 milliards il n'y a pas si longtemps, et que là, on est largement à plus de 3000 milliards. Par exemple, Microsoft, là, au dernier pointage, 3275 milliards de dollars. Apple est juste derrière. Enfin, vraiment, c'est ça touche-touche en fonction de la séance. Et Nvidia, pareil. En fait, les trois se tiennent, en gros, à 50 milliards de dollars près. Donc, moi, j'ai fait le calcul. Il faudrait que, d'ici la fin de l'année, ils progressent de 22%. Alors, c'est peut-être un peu délicat d'ici la fin de l'année, mais sur deux ans, c'est pas du tout impossible, vu notamment Nvidia, vu les performances d'Nvidia. Donc, ça paraît pas totalement insurmontable, on va dire. Ça paraît pas si fou que ça, sauf correction majeure sur les marchés américains.
Hein. Effectivement, et on n'y est pas, puisque Wall Street aujourd'hui est quasi stable. Allez, toute petite baisse gentille de 0,2% sur le S&P, qui était sur des records hier encore. Le S&P préserve ses gains, son record d'hier à peu près, et le Nasdaq lui est parfaitement stable, pendant qu'en Europe, c'est compliqué. On va se réarrimer à la séance du jour. Dans dans un instant, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Louis Dallaureau et les équipes web de BFM Bourse. Dans un instant donc, zoom sur cette séance très difficile à la Bourse de Paris. Depuis le début de la semaine, le CAC perd désormais 6,5%. C'est la pire semaine pour le CAC 40 depuis le mois de mars 2022. Et on était à l'époque en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà, bah, on en est là sur le CAC 40, moins 6,5% sur la semaine. Le CAC, depuis le début de l'année, ne progresse plus. Il est même désormais, avec la baisse hebdomadaire, en repli, le CAC depuis le 1er janvier de 0,5%. Et pendant ce temps, l'écart de taux avec l'Allemagne, lui, approche les 80 points. On est sur des plus hauts de 2017 quant à cet écart de taux entre la France et l'Allemagne. On en parle, une spéciale quasi pendant une heure jusqu'à 18h à suivre avec nos experts du club. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.